Vous écoutez RTL.
Il est 15h04, vous êtes sur RTL et on est fait pour s'entendre, bien sûr, avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Marie Guerrier. Marie, à 16h, promis, je vous rends l'antenne pour un prochain point sur l'actu.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci. Pardon. Et si on se sauvait soi-même avant de vouloir sauver les autres? Le syndrome du sauveur ou ce besoin de s'occuper des soucis des autres avant les siens? Eh bien, c'est tout de suite avec vous sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. En fait, la détox, c'est surtout un mode de vie plus sain, une alimentation équilibrée, des trucs et astuces qui n'attendent pas que le corps soit encrassé pour le purifier. Alors, vive les carottes et le citron et à mort ce qu'on appelle la junk food, les produits transformés, les charcuteries suintantes sous vide. Vous verrez en plus... Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes en forme aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur RTL, c'est en direct, c'est jusqu'à 16h, c'est intelligent, c'est instructif, c'est distrayant, c'est émouvant, c'est pétillant, bref, c'est la meilleure émission de radio entre 15h et 16h de toute la France, tout entière, du monde, de l'univers. Ah oui, j'ai oublié, c'est modeste aussi. Allez, 3210, les réseaux sociaux, il n'est de bonne émission sans vos témoignages et réactions. N'hésitez pas. Aujourd'hui avec vous, jusqu'à 16h en direct sur RTL, nous allons parler du syndrome du sauveur. On aurait pu dire aussi de l'infirmière, du psy, de la dictologue ou de toute autre profession d'engagement vis-à-vis de son prochain. Certains d'entre nous en sont atteints à des degrés divers. L'un qui passe des nuits à coacher son ami pour sortir des griffes d'une perverse narcissique. L'autre intimement persuadé que ce sera elle qui parviendra à guérir cet homme-là de son incapacité à s'engager. Ou encore celle qui n'a de cesse de porter à bout de bras son collègue dépressif réfractaire à tout rendez-vous chez un psy. Mais à force, ne serions-nous pas en train de nous oublier? Vouloir aider à tout prix, mais à quel prix? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Laurie Hawkes, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL, Laurie Hawkes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laurie, vous êtes psychologue, clinicienne, psychothérapeute, auteur de différents ouvrages. La force des introvertis, de l'avantage d'être sage dans un monde survolté, ça c'est chez Erol. L'art de penser dans un monde distrait et violent, ça c'est chez Odile Jacob. Et quand on vous a proposé ce sujet, en fait, le syndrome du sauveur, tout de suite vous avez réagi positivement en disant oui, moi je parler de ça. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une société aujourd'hui dans laquelle les sauveurs sont légion?
Peut-être que surtout on les souhaite légion. Oui. On aimerait qu'il y en ait plus. On encourage les gens à faire du bénévolat et à aider toutes ces personnes misérables qui sont victimes dans les rues.
Oui. Et donc du coup, vous pensez qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où on appelle le sauveur qui est en nous?
Oui, je le sens tous les jours moi-même. Ouais. J'ai l'impression d'être une méchante, de ne pas sauver plus souvent plus de monde.
D'accord, ok. Donc il y a la pression du sauveur selon vous. À vos côtés, Anne-Victoire Rousselet. Bonjour Anne-Victoire.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Vous êtes particulièrement agaçante aujourd'hui parce que vous avez un teint extraordinaire. Vous rentrez de vacances, vous êtes trop belle. Et alors vous, on vous connaît évidemment pour vos travaux sur la schizophrénie, une émission fabuleuse qu'on a fait en votre compagnie et celle de Polo Tonka. Et alors aujourd'hui, évidemment, c'est un tout autre sujet, hein, Anne-Victoire Rousselet. Mais on parlait il y a un instant du sauveur, du syndrome du sauveur, et on parlait d'une faille. Est-ce que c'en est une réellement?
Je pense oui, à un certain excès, une certaine intensité, bien sûr. On en est tous victimes en tant que psy, je pense. Moi, je suis psychologue en addictologie également. Et en addictologie, on voit des gens qui sont dans une profonde détresse. Mais je pense que ça cache une faille du narcissisme, de l'ego, un besoin de reconnaissance. Mmh. Malgré tout, encore une fois, quand on atteint une certaine intensité, un certain extrême dans l'envie d'aider et de sauver les autres. Mmh. Et j'ai envie de commencer un peu cette émission et mon intervention par un adage que j'aime bien et que je donne souvent à mes patients. Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Oui.
Et quand on est bien dans ses pompes, on peut bien aider les autres et on peut même les aider beaucoup et souvent.
Est-ce que vous avez le sentiment aussi que certains existent à travers ça?
Bien sûr, j'ai l'impression que certaines personnes, en effet, se réalisent et ne peuvent exister, peuvent même exister, se réaliser qu'à travers le soin et l'aide apportée aux autres.
Qu'est-ce que ça veut dire d'eux ou d'elles, de ces personnes?
ça signifie qu'il y a une forme de dépendance à l'image qu'on va donner, que l'image de soi est insécure et instable, au point qu'on a besoin que l'autre nous renvoie une image positive, agréable, tant on n'y adhère pas, on n'y croit pas. Donc développer l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, permettra de stabiliser ça et de ne plus s'épuiser dans l'aide apportée à l'autre.
Laurie Hawkes, il y a un instant, vous nous expliquez qu'il y a une injonction à toujours aider son prochain aujourd'hui, aller vers son prochain, pouvoir sauver son prochain. C'est vrai qu'on le voit dans une société qui va plus ou moins bien. Hein. Nous, on essaie de faire acte de résistance avec notre positivisme tous les jours sur RTL. Mais bon, ça n'est pas forcément très facile dehors. Est-ce qu'en même temps, vous n'avez pas le sentiment que il y a différents degrés et que certains n'ont pas besoin de cette injonction à être des sauveurs? Certains le sont naturellement.
Oui, et... ceux qui le sont naturellement sont peut-être plus vulnérables, sauf s'ils ont travaillé dessus, comme nous en parlions avant l'émission avec Anne-Victoire. Quand on a vraiment compris pourquoi on avait besoin de sauver comme ça, on va beaucoup mieux résister. Alors que quand c'est une sorte de réflexe, là, ça devient dangereux.
D'accord, très bien. Alors, on va évidemment passer l'heure ensemble avec vous, avec nos auditeurs. Delphine qui nous écrit, moi je sais pas vraiment pourquoi, mais régulièrement, mes amis, ma famille, mes collègues se confient à moi, j'écoute sans juger et souvent la réponse est en eux. Alors ça, c'est effectivement quelque chose de plus équilibré. Et puis en même temps, il y a Emma qui nous dit qu'elle est toujours à l'écoute des autres. Oui, trop d'ailleurs, et je m'y perds parfois. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du syndrome du sauveur. Et si vous êtes touché par ce syndrome, n'hésitez pas, composez le 3210, on va vous aider à en sortir. Allez, à tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Magali, vous nous avez laissé un message sur Facebook. On va vous en renvoyer en message privé car j'aimerais beaucoup que nous puissions échanger sur votre antenne, sur notre antenne, sur votre antenne. Bref, voilà, on partage tout sur RTL, vous le savez. Aujourd'hui, on parle du syndrome du sauveur. Alors, évidemment, il y a les gens sur lesquels on peut compter. Voilà, ça c'est une chose, qui sont des épaules dont on sait qu'elles seront toujours là, avec de bons conseils avisés, avec certaines lumières qui vont nous permettre, en tout cas peut-être, de régler certains problèmes. Et puis, il y a les sauveurs. Les sauveurs, ils sont là, vous n'avez même pas demandé quoi que ce soit, que tout à coup, boum, ils arrivent avec la cape et ils vous proposent à un moment donné de rentrer dans votre vie. On en parle aujourd'hui avec Laurie Hawkes et Anne-Victoire Rousselet. J'aimerais bien, si vous le voulez bien, qu'on définisse ce syndrome du sauveur. Ce que je viens d'expliquer là, Laurie Hawkes, c'est que quelque part, le sauveur peut être intrusif aussi dans notre existence.
Oui, et nous, en analyse fractionnelle, on distingue les sauveurs petit s, le gars qui se jette à l'eau pour sauver un enfant qui se noie.
Et qui reste quelqu'un d'héroïque.
Voilà, ça c'est un vrai sauveur. Bien sûr. Et le sauveur S majuscule, qui est quelqu'un qui entre dans le rôle du sauveur pour sauver le monde, sauver tout le monde.
Donc il y a une histoire d'ego là-dedans aussi, quand vous parlez de petit s et de grand S.
Il peut y avoir l'ego, mais il peut y avoir aussi une espèce de manque à la base, comme les gens qui ont aidé leur maman malade quand ils étaient petits, qui ont élevé les petits frères et sœurs. Ça devient à la fois leur raison de vivre et une sorte de protection. Si papa était violent et qu'on protège les petits, on sent plus la peur.
Je comprends. On a un message de Valérie qui va dans ce sens. Depuis toute petite, j'ai toujours eu ce besoin d'aider les autres, en particulier les enfants. J'ai eu une enfance heureuse et j'ai toujours trouvé injuste que d'autres n'aient pas cette chance. Alors c'est dans un registre différent, mais en tout cas elle est sauveuse, entre guillemets, d'enfants. Aujourd'hui, je suis famille d'accueil et mon envie d'aider les enfants est plus forte chaque jour. Malgré tout, je serai toujours frustrée de ne pas pouvoir tous les aider. Donc parfois, il y a un moment, il y a un environnement, il y a un déclic dans l'existence, Anne-Victoire Rousselet, qui fait que tout à coup, on rentre en engagement quelque part.
Il y a un désir profond, Laurie vient de l'évoquer, il y a quelque chose aussi de développemental, d'éducatif, le modèle qu'on a reçu, on avait un petit peu parlé lors d'émissions précédentes de cette histoire de la façon dont on est formaté par notre environnement familial, donc ça peut être aussi des valeurs qu'on nous a inculquées, ça peut être une culpabilité qu'on nous a inculquée, comme ça peut être également le rôle qu'on a toujours eu, notre façon d'exister comme l'enfant qui aide sa maman, et puis à un moment peut-être le sentiment qu'on est pas complètement réalisé, pas complètement accompli, qu'il nous manque quelque chose.
On se remplit de ça un peu.
Bien sûr, et qu'on va se remplir de ça. Alors, ça pose la question de pourquoi on a envie de se remplir de ça et jusqu'à quel point. L'idée est de ne pas dépasser nos propres ressources et de ne pas se maltraiter ou de s'oublier dans ce contexte-là. Ça reste valorisant et plutôt beau comme geste d'aider les autres.
Aurélie Bellet qui nous écrit « Je sauve avec plaisir et avec entrain. Une main tendue fait partie de mon éducation. Aider pour soi-même. Sans doute y trouve-t-on une satisfaction narcissique, mais c'est une composante. » Et puis Delph Sowat, « On se sent tellement plus léger, tellement utile. On s'oublie parfois un peu en aidant autrui. Mais finalement, ne s'aide-t-on pas aussi ? C'est une belle émission. Merci pour vos messages. » Il y a un instant, en début d'émission, pour poser le thème, je vous ai parlé de ces femmes qui parfois vont toujours aller vers le même homme, vers celui qui est absolument un cas désespéré, en étant persuadée qu'elles compteront dans son existence parce que c'est par elle que passera la guérison de l'alcool, d'une addiction diverse et variée, ou encore de la peur de s'engager. Est-ce qu'à un moment donné aussi, l'amour ou les sentiments favorisent ce syndrome-là, Anne-Victoire Rousselet?
Surtout l'amour aveugle, donc peut-être c'est des failles qu'on ne voit pas. Et parce qu'on est concentré hormonalement sur ce qui est compatible et pas sur ce qui est incompatible. Donc l'instinct nous pousse à penser à minimiser l'impact de ces choses négatives versus les éléments qu'on trouve positifs. C'est la raison pour laquelle moi ce type de femmes, quand je les reçois, je leur demande de fixer un peu les critères objectifs avant de rencontrer, dans mon moment de célibat, les qualités indispensables et les défauts insupportables, et d'avoir comme ça finalement des critères observables, objectivables, qui vont pouvoir leur permettre de repositionner leur comportement et de ne pas s'orienter vers ce type de personnes
qui leur seront toxiques de toute façon au final.
Qui on change pas quelqu'un.
Le nombre de femmes qu'on voit galoper vers des hommes impossibles, et d'ailleurs, pardonnez-moi messieurs, l'inverse est vrai aussi, le nombre d'hommes qui courent après justement des femmes impossibles avec un tonneau autour du cou en se disant je vais être là, je vais le sauver.
Oui, et c'est intéressant qu'ils se complètent. C'est jamais les hommes impossibles qui vont vers des femmes impossibles. C'est les hommes sympas vont vers des femmes impossibles et inversement. Mais au fond, ça reflète aussi un manque de narcissisme souvent qui est très triste. C'est-à-dire un homme ou une femme qui pense qu'il ne peut pas mériter l'amour juste...
Oui,
en étant
il faut le
soi.
Payer un peu.
Oui, il faut que je sauve la personne pour qu'elle ait besoin de moi, à défaut de m'aimer.
On va se retrouver, si vous le voulez bien, sur cette antenne, avec vous. N'hésitez pas, vous composez le 3210. Magali, appelez-nous pour nous raconter cette jeunesse où quelque part vous aviez le sentiment, écrivez-vous, d'être la bonne poire et de vous faire un petit peu bouffer par le monde extérieur. On vous attend avec joie sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Je disais donc, encore des échanges à venir sur RTL. Voilà, on remercie Xavier Cassou, notre technicien réalisateur, qui, dit-on, m'a coupé la chic il y a un instant sur cette antenne. Xavier, tu es tout pardonné, je viendrai toi aussi te sauver. Alors, on parle du syndrome du sauveur aujourd'hui sur RTL. Et alors, justement, Nina qui nous écrit, moi j'aimerais bien sauver une personne qui a le syndrome du sauveur, qui s'oublie complètement. Avez-vous des recommandations? Eh bien, on va vous en livrer des recommandations. Mais peut-être que les sauveurs, justement, nous écoutent aujourd'hui et s'interrogent pourquoi suis-je toujours en train, parfois c'est terrible hein, d'ailleurs, mais de me fourrer dans des histoires qui finalement vont plus m'enfoncer que m'élever. C'est un peu ça aussi, hein. Il y a un côté se prendre systématiquement et souvent les pieds dans le tapis dans ce syndrome-là, Anne-Victoire Rousselet.
Une question de répétition de scénario de vie hein, évidemment, c'est-à-dire que on est dans un fonctionnement et c'est très compliqué un, de s'auto-observer et deux, de sortir de ça, parce que c'est tout ce qu'on a toujours connu. Donc l'objectif dans un premier temps c'est l'observer et le comprendre, voir ce qu'on répète, et puis dans un second temps, développer ce qui fait faille et ce qu'on vient remplir. On parlait d'un vide qu'on remplit, voir ce qu'on vient identifier, ce qu'on vient remplir, et voir comment est-ce qu'on pourrait être plus accompli autrement qu'en aidant en permanence, parce que c'est un vide sans fond. C'est-à-dire qu'en effet, en allant toujours à des profils de gens qui ont besoin d'aide et qui ne sont pas forcément disposés à la recevoir, hein, d'ailleurs, finalement...
Ou pas reconnaissant.
Parce que souvent, ces gens-là ne sont pas forcément aussi très conscients. Je l'expliquais il y a un instant. On avait tout à l'heure l'exemple aussi d'une personne qui aide son collègue de travail qui est en pleine dépression mais qui ne veut pas aller voir un psy. On va souvent aider aussi des personnes qui, quelque part, nous glissent entre les mains et ne posent pas des actes pour s'en sortir.
Oui. Laurie, ils peuvent éventuellement dire à la fin « Oui, ben, ça m'a servi à rien ce que tu m'as dit. »
Oui, alors, qui peuvent aussi exprimer une forme de reproche.
Oui, le retour de bâton.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, Victor Rousset ? Qu'est-ce qui joue derrière tout ça ? C'est-à-dire le syndrome de vouloir aider des personnes qui, finalement, ne profitent pas de cette aide-là. C'est comme si ça glissait un peu sur les ailes d'un canard.
Exact. Et c'est finalement une faille du narcissisme. Et penser qu'on peut aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, c'est une illusion, évidemment. Et c'est,
Oui, mais ça accroît encore plus notre volonté de les aider. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on se dit, le cas est en train de devenir désespéré.
Et c'est vraiment là que c'est pathologique, d'ailleurs. Parce qu'on va s'épuiser. On va aller chercher dans les ressources qu'on n'a pas. On va prendre du temps sur la vie familiale, personnelle, amicale, etc. pour aider des gens qui ne demandent pas à l'être. Donc c'est un puits sans fond.
On peut trouver des gens à aider dans tous les domaines de l'existence, Laurie Aux. Ça peut être des collègues, comme on disait. Ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un qu'on va croiser au détour d'une soirée. Ça peut être nos enfants, me disiez-vous aussi.
Absolument.
Alors ça, j'avais un peu plus de mal à l'entendre parce que moi, j'ai l'impression que pour nos enfants, on serait capable de tout faire.
Oui, et dans une certaine mesure, c'est merveilleux d'avoir ce penchant-là.
Oui.
Mais on voit de temps en temps des mamans qui disent, ah ben, faut que j'aille à la banque, je suis vraiment fatiguée, mais mon fils de 35 ans, on n'a pas le temps d'y aller. Je dois prendre la voiture, 50 km pour aller chercher son carnet de chèques. On se dit, bon, il faudrait peut-être le laisser grandir un petit peu maintenant.
Oui. Oui.
Et ce genre de scénario où on doit constamment aider et être régulièrement déçu. Il y a toujours l'espoir que, enfin, la personne va m'apprécier.
Vous savez, c'est comme dans le jeu. Hein. Certains vous expliquent qu'ils vont jouer, ils vont jouer, ils perdent, ils perdent, ils perdent, mais il y a toujours cet espoir de gagner.
Oui.
C'est un peu ça aussi ?
Absolument. Il y a une espèce de Graal qui est là, au loin, dans le lointain, et on se dit, un jour, j'y arriverai. Soit j'arriverai à sauver mon mari alcoolique, à l'empêcher de boire. soit j'arriverai à ce que mon enfant, que je surprotège, va prendre son envol. Mais si c'est moi qui le fais prendre son envol, il ne va pas le prendre.
Je comprends. Alors, ce que je vous propose, vous vouliez rajouter quelque chose, Anne-Victoire ?
Oui, je voulais juste rajouter qu'il y a beaucoup de sagesse dans les adages et on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif.
Bon, ça y est, là, c'est
et
la
donc,
journée. Là.
Oui, c'est ma journée adage. et donc, ça rejoint exactement ce que disait Laurie. Moi, je pense qu'il y a une question des limites. C'est-à-dire que le sauveur sans limite va aussi rencontrer la personne qui n'a pas de limite dans ce qu'elle va demander.
Oui. Oui, tout à fait. Ce qui est la meilleure façon de se faire bouffer.
Évidemment.
C'est-à-dire qu'on se rencontre au moins sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'on veut donner, donner, donner. L'autre a besoin de prendre, prendre, prendre. Et au final, on reste exsangue. Alors, on a un message de Calimero Tagada. Un tweet. Hein. Quand on se fait avoir quelquefois à ce petit jeu, ça refroidit bien et ça passe. Êtes-vous vraiment certain ? Est-ce que c'est pas un peu vissé au fond de notre ventre, tout ça ? Est-ce que c'est comme en amour, hein ? On se dit, oh là, on m'y reprendra plus. Et puis, vous êtes sûr que la fois d'après... Voilà, vous tombez dans le panneau. Et bien justement, on va y revenir avec vous dans un instant. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Nous venons d'avoir Magali en ligne. Malheureusement, Magali, elle travaille, donc elle ne peut pas passer à l'antenne. On ne dira pas, Magali, que vous écoutez RTL quand vous travaillez. Voilà, Nathalie nous a confié. Hein. J'ai été d'un naturel bonne poire au moment de l'adolescence pour me rendre compte au final que l'on se foutait littéralement de ma gueule. J'étais assez fréquentable pour garder les cigarettes de ceux et de celles qui ne voulaient pas se faire avoir par leurs parents ou d'aider pour les devoirs, ou d'ailleurs faire le devoir carrément, mais pas assez pour que l'on me convie aux activités du groupe. Du coup, j'ai arrêté et j'ai décidé de me sauver d'abord. J'ai fait comme dans le film Vilaine avec Marie-Lou Berry, j'ai appris à dire non. Après cela, les gens qui s'intéressent vraiment à vous se comptent sur les doigts d'une main. Maintenant, je ne rends service qu'à ceux que j'ai vraiment envie d'aider et mes proches passent avant tout. Voici clairement le témoignage d'une jeune femme passée par l'expérience du syndrome du sauveur. Très tôt, hein, d'ailleurs, hein, quand on écoute, c'était celle qui, effectivement, allait être l'alibi, garder les clopes, faire les devoirs, pour finalement... ne pas être assez sympa pour être convié aux activités entre potes. Alors ça, c'est tout le paradoxe aussi. Est-ce que être un sauveur, ça n'est pas aussi quelque part secrètement Anne-Victoire Rousselet, une profonde envie d'être aimé et d'être intégré?
Si, bien entendu, hein, on trouve chez beaucoup de sauveurs l'envie d'être aimé, l'envie d'être reconnu, l'envie d'exister aux yeux de l'autre et par ses actions d'être quelqu'un entre guillemets de bien. Mais finalement, celui qui rend tout le temps service, c'est celui qu'on ne respecte pas parce que il ne dit pas simplement, ne se fait pas respecter, il ne s'affirme pas en disant non, ça je le ferai pas, etc. Et finalement, la personne qui va affirmer son point point de vue, qui va avoir une opinion, on aura plus de respect, plus de considération. Le fait de pouvoir se heurter, de discuter, d'échanger, de ne pas avoir tout le temps les mêmes avis, le même fonctionnement, permet de développer une relation qui va pouvoir grandir. Alors que quand on est toujours un peu papier peint, finalement, on reste papier peint et on est dans le décor, et voire même quand on change de décor, on l'oublie, quoi.
Ce qui est intéressant dans ce que dit Anne-Victoire Rousselet, Laurie Hawkes, c'est qu'on n'est déjà pas sur un pied d'égalité dans la relation. Donc forcément, à un moment donné, ça laisse loisir aux autres d'être dans une forme de maltraitance et de rejet.
Oui, et c'est intéressant parce que souvent, le sauveur, il se place plutôt au-dessus. Les autres ont besoin de moi, il faut que je les aide. Mais là, on a un exemple d'une aide un peu carpette. Si je me laisse suffisamment piétiner, alors on m'aimera. Et tout est vraiment...
C'est de l'ordre de la supplication quand même.
Oui, à la limite. Ouais. C'est aimez-moi quand même, s'il vous plaît, avec vraiment cette attitude basse.
Oui, mais ce qu'il y a de génial, c'est qu'effectivement, dans cette idée de carpette, comme vous le dites, Magali, à un moment donné, elle a dit non, quoi.
Oui,
et ce qui est intéressant,
formidable.
Mais bien sûr qu'elle est formidable.
Elle a fait
ce qui est intéressant, c'est cette idée, à un moment donné, de se dire j'aime les autres, mais je m'aime avant, hein, donc je me redresse. Et là, elle explique que tout à coup, on ne joue pas la même partition. Et que tout à coup, le vide se fait autour de soi. C'est courir le risque aussi de rompre des liens, Laurie Hawkes, que d'être capable de dire non.
Oui, si on a habitué ses amis à leur rendre service, quand on fait autre chose, c'est plus les mêmes amis. Ces amis-là disent « mais à quoi tu me sers maintenant ?»
Oui.
Et c'est peut-être une bonne chose de changer d'amis, et ça n'empêche pas que c'est douloureux.
Oui, mais donc ça demande de l'audace, Anne-Victoire Rousselet, que de sortir de genre de relation, de se dire « bon, ok, d'accord, il n'y aura plus un tel, 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 il y aura moi. » Et ceux qui comptent. Mais c'est pas facile. Hein.
Et je vais peut-être être seule et confrontée à l'image de moi-même et développer une image de moi-même qui sera plus stable, plus sécure et en tout cas passer par une phase d'angoisse à être isolée et à devoir se définir soi-même, ce qui est difficile. Ce qui me paraît aussi important par rapport à ce qu'on disait à l'instant, c'est le fait qu'il a fallu pour Magali s'affirmer. Elle a pu à un moment observer que c'était dysfonctionnel et que finalement ses amis n'étaient absolument pas authentiques. Il faut pouvoir se positionner comme ça. Il faut accepter l'idée que tout le monde ne sera pas mon ami.
Oui.
En effet.
Je peux ne pas être aimée par tous aussi, ou je peux être mal aimée par certains.
Et que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a certaines personnes dont on n'a pas envie d'être aimé.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent et qui se disent « Bon, alors attends, ok, d'accord, moi je suis clairement dans ce genre de relation, je suis en train de me perdre. » Dans un instant, on va voir à quel point on perd des choses aussi en étant dans une sorte de sacrifice de soi-même. Qu'est-ce qu'on laisse sur le bord de la route? Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, d'accord, mais alors je fais comment maintenant ?» Parce que dire non, c'est facile, hein. Enfin, non, non, non. Mais le dire d'une façon recevable, d'une façon assez ferme pour être entendue et savoir s'y tenir, c'est pas si simple que ça, Laurie Hawkes.
Oui, il y a dire non, mais ce qui me vient de plus en plus à l'esprit au fur et à mesure de l'émission, c'est la notion de contrat. C'est-à-dire, si on se met d'accord sur ce qu'on veut bien faire pour l'autre, si l'autre fait une demande claire et qu'on se met d'accord, alors on est de moins en moins dans le sauvetage, on est de plus en plus dans le service, avec accord. Et ça, c'est vraiment un bon début. Même si on n'a pas envie de dire non, dire « qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que moi je veux bien faire ?» et de beaucoup s'écouter soi-même, être attentif à « est-ce que je veux vraiment bien faire ça ?»
On peut réécrire une histoire, on peut en tout cas l'écrire différemment, Anne-Victoire Rousselet.
Ah oui, clairement, je pense que je ne ferais pas ce métier si j'y croyais pas. Mais en psychothérapie, nous, on fait des groupes d'affirmation de soi qui répondent exactement à ce questionnement-là et le besoin de s'affirmer, d'affirmer son opinion, qui l'on est, en apprenant à dire « Ok, je ne vais pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave parce que ce qui est important, c'est que je sois bien avec moi-même. » Donc ces groupes d'affirmation de soi permettent ça et permettent aussi d'accepter l'idée que on va donner, mais on va pas attendre de recevoir. Et donc là, je pense que le sauveur, il est sauvé, entre guillemets, sans syndrome, du moment qu'il accepte de donner, sans qu'il y ait forcément un retour, parce qu'il donne gratuitement, parce que ça lui fait plaisir, et point. Et qu'il attend pas de l'autre une reconnaissance, une image positive, il le fait pour lui-même.
Et forcément, il donnera d'une façon peut-être plus mesurée dans ces cas-là, et peut-être plus adaptée, en tout cas. Qu'est-ce qu'on laisse en cours de route, quand on a le sentiment d'être bouffé par les autres, quand on a le sentiment qu'on vient nous manger l'esprit, le corps, la disponibilité, la vie, en ayant toujours à cœur de sauver les autres, eh bien on va en parler dans un instant. Mais si vous le voulez bien, pour ceux qui nous écoutent et qui tout à coup sentent que ça y est, ça les prend, ça swing, ça monte dans les hanches, dans les bras et qui ont envie de danser, eh bien voici Prince sur RTL, à tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ma foi, en écoutant votre émission, ou pas celle-ci entre autres, mais c'est vrai que je suis un fervent admirateur de vos
Merci.
Émissions. En général, je les écoute tous et puis j'en apprends plein de choses. Et...
Merci. Et aujourd'hui, vous vous êtes dit, c'est dingue, on parle de moi sur RTL.
Bah, disons que parler de moi, pas forcément. Ouais. C'est, je vois, c'est pas tout à fait le même souci.
Enfin, vous dites que c'est plus fort que vous d'aider les autres.
Ouais, déjà, c'est plus fort que moi. Mm. Et ça, je l'ai toujours été. Ça a toujours été comme ça. Mm. Et je me dis pas, il faut que je le fasse. Mm. Je vais pas voir la personne en lui disant, t'as un souci, je suis là pour t'aider. Non, non. Mm. Ça se fait automatiquement et inconsciemment, et je vais me démener, je vais faire des recherches si j'ai pas la solution, je vais vraiment chercher, je vais m'impliquer vraiment à la sortir de son souci.
Mais qui a grâce à vos yeux, Stéphane? Qui a grâce à vos yeux? Qui a grâce à vos yeux? C'est-à-dire que, est-ce que vous vous emparez
Non, je m'empare pas de ça. Non. C'est, j'ai l'impression que c'est un besoin.
Oui.
C'est un besoin peut-être de reconnaissance. Je n'avais pas pensé à ça du tout. Et en vous écoutant, c'est vrai que c'est peut-être ça, parce qu'en général, je n'ai jamais la reconnaissance de ce que j'ai pu faire.
Et ça vous
Mais
manque
après, je ne la demande pas forcément, ouais. puisqu'on ne me l'a pas demandé. Mmh. C'est moi qui me suis proposé inconsciemment, sans dire que je suis là. Non. Comme là, j'ai eu un. Les soucis, c'est le problème, c'est que quand c'est au sein de votre famille, ouais. quand vous avez une femme, quand vous avez des enfants,
ouais.
et que les soucis, comme partout, hein, y en a, hein, et que vous avez les solutions et vous vous décarcassez de façon à ce que, parce que ça soit résolu, et quoi que vous fassiez, de toute façon, vous savez que ça se retournera contre vous.
Ah, alors, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que en fait, on a un devoir vis-à-vis des gens qu'on aime, c'est ce que vous nous expliquez, dans une famille.
Ah bah oui.
Mais quand tu dis ça, quand vous dites, pardon, on va se tutoyer maintenant, Stéphane, pardon, quand vous dites, Stéphane, ça, quoi qu'il arrive, ça se retourne contre vous, ça veut dire quoi?
À chaque fois. Et de toute façon, j'ai toujours vécu dans des soucis, des problèmes. Il m'est toujours arrivé, eu le retour à l'inverse de ce que moi je lui ai donné. Mmh. J'ai toujours fait bien, énormément de bien, et j'ai toujours le mauvais retour.
Mais ça
veut dire... dans ma propre famille, dans mon couple, c'était moi le dindon, et en fin de compte, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et je fais tout ce qu'il faut pour que ça puisse aller dans le bon sens.
Oui, mais,
quand voyant que ça ne fonctionne pas, malheureusement, comme la plupart des couples, on finit par se séparer. Et en fin de compte, les enfants, ils sont retournés contre vous et vous ne savez pas pourquoi.
Je comprends ce que vous voulez dire. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que le fait parfois d'être trop gentil, on ne va pas rentrer précisément dans la vie de Stéphane, hein, mais Anne-Victor Rousselet.
Je ne sais pas si c'est la gentillesse. Mais
je parle de gentillesse, mais de parfois, vouloir faire avancer les choses, vouloir... parfois, effectivement, il y a des événements de l'existence qui nous plongent dans une profonde solitude avec un profond sentiment de ne pas être reconnu. En fait, pour ce que l'on a fait. Au minimum, on le voit dans les divorces. Mm. Quand on se met dessus dans le divorce, on ne reconnaît pas à l'autre ce qu'il a fait. Mm. Ça fait partie de la règle du jeu.
Oui, bien sûr. Et donc, c'est vrai que tout est à charge. Et dans ces moments-là, c'est la guerre. Donc, tout est bon pour abattre, entre guillemets, l'autre. Mais c'est vrai, ce que j'entends bien ce que dit Stéphane. Et il y a une forme de culpabilisation quand vous disiez tout ce que je fais, quoi qu'il arrive, quel que soit ce que je fasse, finalement, ça ne va pas. Donc, que je fasse... Que je les aide ou que je les aide pas. Si je les aide pas, ils vont me dire tu m'aides pas, c'est pas sympa. Et si je les aide, ce sera jamais assez bien, jamais comme il faut.
Non, pas forcément
c'est
ça.
C'est pas ça?
Non.
Non, mais enfin, ce que vous expliquez, c'est quelque chose qui est partagé, en tout cas, par de nombreuses personnes qui nous laissent des messages et qui vont dans ce sens-là. En tout cas, ce qui est super, Stéphane, c'est que vous nous avez appelé en disant quelque part, moi aussi, en aidant les autres, ça m'a plusieurs fois aidé à remonter la pente.
Oui, c'est vrai. C'est parce que moi, vu que la solution d'aider, j'ai jamais le retour. Et puis, de toute façon, les soucis que j'ai, à part moi, personne ne peut m'aider.
Donc ça vous stimule
donc,
à un moment donné
En aidant les autres, moi, j'ai vu un collègue de travail qui habitait en diagonale de chez moi. Je passais souvent le voir. Il me racontait sa journée de travail, il me racontait ses collègues, mais que je ne connaissais pas. Mais je connaissais sa vie, je connaissais son histoire. Et puis, moi, je l'aidais. dans sa solitude, je l'aidais, et puis moi, mes soucis, en gros, je les oubliais pendant ce moment-là. Mmh. Et par contre, je ne leur expliquais pas le mien.
Oui, c'est ça.
Parce que je savais que ça ne servait à rien.
Voilà, mais je comprends. Et puis parfois, effectivement, il faut se recentrer sur nos soucis à nous, et on va en parler avec nos invités dans un instant. Je vous remercie beaucoup, Stéphane.
Mais y a pas de soucis.
Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, évidemment, à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.
Merci.
Au revoir, Stéphane.
Moi aussi. Au revoir.
Au revoir. Alors, on a des messages qui nous sont arrivés. Nini, moi aussi, j'ai toujours voulu aider, quitte à oublier mes propres besoins, peut-être parce que ça m'évitait de voir ce que je traversais, peut-être aussi parce que je sais ce que veut dire souffrir dans tous les sens du terme, peut-être aussi pour réparer le passé. Ce qui m'a valu des petits copains pas toujours très sains pour moi. Aujourd'hui, j'apprends à me protéger, à penser plus à moi, à me faire confiance. Néanmoins, je pense que j'aiderai toujours, mais plus de la même façon. Et puis dans un instant, je vous lirai le message d'Yveline qui va nous expliquer à quel point un jour elle a vu arriver un sauveur masqué dans sa vie et ça n'a pas été forcément la bonne idée. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Avant de vous lire le message d'Yveline, on va revenir sur une notion intéressante. Nini nous expliquait qu'elle, elle avait toujours voulu aider, quitte à oublier ses propres besoins, peut-être parce que ça m'évitait de voir ce que je traversais. C'est une façon de nous divertir, finalement, de nos essentiels à nous, qui nous prennent la tête, en réalité, que d'aider les autres, Anne-Victoire Rousselet.
Oui, on peut aussi imaginer qu'en effet, ça nous protège de ruminer, de penser à nos soucis, et d'une certaine façon, de mettre une frontière entre eux et nous, pendant le temps où on s'occupe des difficultés de l'autre, on n'est pas centré sur ses propres problématiques. Ça nous évite d'y réfléchir et d'avancer dessus. Et je pense même à certaines pathologies comme le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, qui est un évitement de la vie. Pendant que je fais mes TOC, je ne me projette pas dans l'angoisse d'autre chose. Voilà, exactement. Et donc, ça me fait penser exactement à cette situation-là.
Laurie Hawkes, la frontière, c'est aussi, comme vous le disiez il y a un instant en antenne, on n'est pas tous dans le même bateau, quoi.
Oui, pouvoir se mettre du côté des soignants.
Oui, c'est
et,
ça.
Ça peut même avoir des bons aspects. Je pense à certains collègues, une collègue qui avait perdu son mari. Et elle était, il était mort depuis quelques jours, elle était assez dévastée. Et elle disait, pendant mes séances de thérapie, j'oublie tout, je me sens bien. Et ça n'est pas une mauvaise chose. Elle faisait bien son travail.
Donc ça, c'est dans le cas vertueux, positif. Oui. Mais parfois aussi, aller à la rencontre de ceux qui sont dans une forme de souffrance, c'est une façon d'être psychologiquement, dans l'idée qu'on est, comme vous disiez, du côté des soignants, donc on est de l'autre côté de la barrière.
Voilà, c'est eux, c'est pas moi. Ouais. Ça m'arrivera pas à moi. Et en plus, je peux démystifier la peur que je pourrais avoir, par exemple, de devenir SDF moi-même, en me disant, non, moi je suis quelqu'un qui aide les SDF.
Oui, donc je suis de ce côté-là de la barrière.
Oui.
C'est intéressant. Un message d'Yveline. Suite à une séparation, je me suis retrouvée un jour à devoir recommencer ma vie à zéro. Au hasard d'une journée, j'ai fait la connaissance d'une personne de 20 ans, ma cadette. Adorable, charmante, et dès le lendemain, elle a voulu spontanément me venir en aide. Sa démarche était touchante, mais au fil des jours, ce soutien m'a littéralement étouffée. Je ne pouvais rien dire sans qu'elle prenne les devants, voire anticipe des désirs que je n'avais même pas formulés. Au final, je ressentais en elle un besoin de être indispensable et j'avais le sentiment de ne rien pouvoir faire sans elle et de lui être redevable à vie des choses que je n'avais pas souhaitées. Cela m'a coûté, mais un jour, je l'ai mise à distance de ma vie car son attitude de sauveur allait beaucoup trop loin, jusqu'à s'investir pour mes fils, pour mes parents et également à faire de mes amis les siens. Ça me fait penser à l'ouvrage de Delphine de Vigan, une histoire vraie que vous pouvez retrouver chez Jean-Claude Lattès. C'est intéressant, là, ce genre d'histoire parce qu'on a quelque part une victime, Yveline, d'un sauveur qui tisse inconsciemment ou consciemment sa toile et qui vient investir. Ouais, c'est le sauveur vampire qui vient investir son existence.
Ouais, c'est le phénomène de codépendance, hein. C'est-à-dire que le sauveur va trouver une victime qui a besoin de son aide à un moment en effet difficile de son existence et va se rendre indispensable parce que privé de cette relation finalement de sauveur à victime, y a cette question de l'existence, quoi. À quoi je sers, à quoi je suis utile si j'ai pas quelqu'un à aider, au point que ça peut, chez quelqu'un qui fonctionne bien comme Yveline, être étouffant, envahissant, oppressant, voire même harcelant.
Et alors, position de faiblesse pour Yveline, intrusion de cette personne dans sa vie, qui vient finalement, contaminer quelque part tous les pans de son existence.
Oui, elle s'insinue et elle prend possession. Alors, ça peut être assez innocent, quoique très envahissant, mais ça pourrait aussi être très pervers. Et on pourrait à ce moment-là avoir vraiment une emprise.
Pour ça, il faut prendre conscience. Il y a un instant, nous avons entendu le témoignage de Stéphane. Stéphane, il nous a dit, bah voilà, j'ai écouté votre émission et puis je me suis dit, ah bah oui, tiens, c'est plus fort que moi, je suis dans ce syndrome. Après, peut-être que Stéphane, il va passer par différentes étapes. On évolue aussi avec nos idées. L'idée, c'est déjà de prendre conscience que l'on est peut-être un petit peu dans une forme d'excès, d'écoute, d'investissement auprès des autres. Et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on retrouve en cours de route? Qu'est-ce qu'on perd, mais qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Anne-Victoire Rousselet.
Ce qu'on perd en s'affranchissant du syndrome du sauveur, on perd...
Non, ce qu'on perd en tombant dans le panneau déjà. On perd quoi? Son estime de soi? On perd...
Son estime de soi, ses aspirations propres. On ne développe pas de sentiment d'être soi et d'activité, de choses qui nous épanouissent, nous, pour nous seuls.
On ne s'aime pas assez.
Non. Et on devient dépendant, en effet, de la relation à l'autre et du regard de l'autre. On n'existe qu'à travers ce prisme-là.
Oui.
Ce qui est quand même handicapant. Alors évidemment, on vit en société, donc on peut se dire, on trouvera toujours une victime qui nous renverra une image positive de nous. Mais en même temps, ça pousse à changer souvent ses relations, à perdre énormément d'énergie, énormément de ressources. Et qu'est-ce qui se passe quand on a fini d'aider l'autre? On en discutait un peu hors antenne. Ce qui se passe quand on a fini d'aider l'autre, finalement, on n'existe plus, on n'a pas forcément la reconnaissance, on a perdu un peu d'estime de soi parce que malgré tout ce qu'on a fait, on n'a toujours pas l'amour, l'affection, ni l'estime de soi. Donc, à quoi bon? C'est une forme d'épuisement émotionnel et psychique.
Quand on a réussi à dire non, qu'est-ce qu'on gagne alors, Laurie Hawkes?
Alors, on gagne plein de preuves de courage, d'oser autre chose, d'oser le saut dans l'inconnu, oser ne pas acheter l'affection. Mais ça se paye, hein, ce courage. Ouais. C'est coûteux, ça fait peur. Mais pour beaucoup de gens, ils sortent de là avec une estime de soi, pour le coup, vraiment...
Décuplée et plus juste, quoi.
Oui, bien ancrée, posée. C'est pas une estime de soi de « bon, on m'aime bien parce que je suis gentille », quoi. C'est ouais, j'ai réussi ça.
Anne-Victoire.
Oui, autre chose qui me vient en entendant Laurie, c'est prendre le risque d'être aimé pour soi et pas d'être aimé pour ce qu'on fait, pour qui l'on est. Et ça, un certain nombre de personnes en ont peur finalement. Est-ce qu'on va m'aimer pour ce que je suis? Et j'ai pas envie de me confronter au risque de ne pas être aimé.
Et puis on n'achète pas l'affection, ni la reconnaissance. On se retrouve tout de suite avec vous sur RTL. Et puis en plus, je vais vous raconter le programme de demain. C'est pas beau ça?
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Bon, bien évidemment, on va conclure d'une façon positive après avoir éveillé les consciences sur le syndrome du sauveur. Laurie Hawkes, vous vouliez rajouter quelque chose rapidement, s'il
vous plaît. Oui, je trouve que c'est une jolie joie gratuite que d'aider de temps en temps quelqu'un. Quand dans le métro, on aide une dame à descendre sa poussette, et ben, elle est contente et on sort de là tout content.
Oui, c'est gratifiant.
Je suis une bonne personne.
Oui, ça fait
j'attends
du bien.
Rien d'autre, juste je suis une bonne personne.
Voilà, aider les autres, ça, d'une façon juste et modérée, c'est une bonne chose. Je rappelle vos ouvrages, La force des introvertis, de l'avantage d'être sage dans un monde survolté, c'est chez Erol, et L'art de penser dans un monde distrait et violent. Il faut toujours penser, vous avez bien raison. Chez Odile Jacob, merci beaucoup, Laurie Hawkes.
Merci beaucoup, Flavie.
Le dernier petit conseil pour la route de Anne-Victoire Rousselet?
Oui, de donner gratuitement sans épuiser ses ressources.
C'est clair.
Apprendre à dire non pour pouvoir avoir le choix.
Voilà.
Ça me paraît important.
Eh bien, merci en tout cas pour ce message important. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychothérapeute et votre ouvrage sur la schizophrénie, c'est Mieux vivre avec la schizophrénie, chez Duno. À bientôt. Débronzez, s'il vous plaît. Redevenez moche et revenez nous voir, d'accord? Enfin, redevenez moche parce qu'elle n'a jamais été d'ailleurs. Devenez moche et venez nous voir. Allez,
merci.
Demain, on va se remettre un peu en question sur notre façon de consommer. Non de non, comme disait ma grand-mère. Soyons honnêtes, n'achetons-nous que ce dont nous avons réellement besoin? Ne serions-nous pas plutôt dans la surconsommation? Ne faites pas l'économie de vos témoignages, ce sera demain à 15h en direct sur RTL. C'était une façon de dire que vous étiez belle en fait. Allez, tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Moi je vous embrasse et je vous dis à demain sur RTL.
Vous écoutez RTL.